Le point sur l'actualité, Anne-Laure Chouin. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Nous reviendrons sur la cérémonie exceptionnellement ouverte au public du scellement de la loi constitutionnelle sur l'IVG qui se tiendra place Vendôme ce matin. Et puis le dossier de ce 8h45 sera consacré aux réserves des musées et aux œuvres des artistes femmes qu'elles contiennent. Sans surprise, elles sont très peu nombreuses. Des manifestations dans toute la France pour défendre l'égalité femmes-hommes et les salariés essentiels mal payés. La journée de lutte pour le droit des femmes dans le monde sera marquée en France, comme en Espagne ou en Argentine, par des manifestations et des grèves. En Irlande, un référendum constitutionnel pour libérer les femmes du rôle que leur a donné le texte fondamental dans la famille est prévu. Et puis à Paris, une cérémonie très attendue, la cérémonie de la pose du sceau sur la Constitution, où sera désormais mentionnée la liberté de recourir à l'IVG, se tiendra à partir de midi au ministère de la Justice, place Vendôme, également appelée cérémonie du scellement. Elle se fera exceptionnellement en public et en présence d'Emmanuel Macron, qui n'a pas encore pris la parole après l'inscription du droit à l'IVG dans la Constitution. Rosalie Lafarge.
C'est un souhait du président, assure son entourage. Une cérémonie ouverte, populaire, pour marquer l'aboutissement d'un long chemin collectif et pour que le combat ne se termine pas dans le huis clos de la chancellerie, précise encore l'Élysée. Cérémonie en public donc, mais avec une seule prise de parole, celle d'Emmanuel Macron. Il n'a pas pu s'exprimer lundi devant le Congrès. La Constitution l'en empêche et c'est le Premier ministre qui a prononcé un discours à la tribune. Aujourd'hui, c'est son tour et c'est normal, insiste un conseiller de l'exécutif. Cette victoire, c'est aussi celle du chef de l'État. Ce sera à mettre à son crédit, ça fera partie de son héritage politique, de son histoire. Le moment s'annonce d'ailleurs chargé de références historiques. Le scellement lui-même, une tradition qui remonte aux Mérovingiens. La presse qui permet d'y procéder, une machine de 300 kilos commande en 1810 par Cambacérès, le sceau de cire avec le symbole de la Deuxième République. Mais le président veut aussi se tourner vers l'avenir, alors que la montée du conservatisme dans le monde n'est plus un fantasme, souligne l'Élysée, et s'inscrire dans le présent avec la défense d'un bilan jugé riche par l'entourage présidentiel sur la question de la progression des droits des femmes et de l'égalité. Jugement qui n'est pas unanimement partagé. Des associations féministes dénoncent régulièrement les positions présidentielles en la matière. Mais en ce 8 mars, l'heure n'est pas à la polémique, veut croire un conseiller de l'exécutif plus inquiet d'une éventuelle mobilisation des anti-IVG aujourd'hui. Il y aura, assure l'Élysée, un service de sécurité adapté.
Donald Trump, cible principale de Joe Biden dans son discours sur l'état de l'Union. Le président américain, candidat à sa réélection, a accusé son opposant républicain de menacer la démocratie aux États-Unis, d'avoir travesti la vérité sur l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021, de s'être soumis au président russe Vladimir Poutine et d'avoir torpillé un projet de loi visant à contrôler l'immigration illégale à la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Joe Biden qui a profité de cette tribune annuelle devant le Congrès pour s'adresser directement aux Américains et leur présenter sa vision d'un autre mandat de 4 ans, notamment sur les questions de la démocratie, du droit à l'avortement également et de l'économie plus florissante que jamais, selon lui. Enfin, sur le Proche-Orient, Joe Biden a annoncé la construction par l'armée américaine d'un port temporaire sur la côte méditerranéenne de la bande de Gaza, port destiné à recevoir de l'aide humanitaire par la voie maritime.
Suite du 8h45 d'Anne-Laure Chouin avec un dossier consacré aux réserves des musées français, plus précisément aux réserves d'œuvres de femmes.
Oui, ces dernières années, plusieurs expositions ont vu le jour qui mettent en lumière des collections finalement considérées comme machistes car y apparaissent surtout des œuvres d'artistes masculins. À Bordeaux, il y a 2 ans par exemple, les commissaires de l'exposition « Les femmes sortent de leurs réserves » ont réalisé que le musée n'avait même pas mis d'argent de sa propre poche pour la moitié de ses des œuvres que cette exposition sortait de l'oubli. Ce genre d'exposition, c'est-à-dire les musées qui explorent leurs propres réserves, en disent long sur la place réservée aux artistes femmes. Chloé Le Prince.
Des expositions introspectives, presque des enquêtes sur eux-mêmes. Ces musées sont allés creuser ici 200 ans de donations faites au musée, ces histoires de collection, jusqu'à fin mai à Valence. Là, un ratio qui donne un peu le vertige. Sur 60 000 œuvres conservées au Palais des Beaux-Arts de Lille, seulement 135 sont attribuées à des artistes femmes. Et Alice Fleury et Camille Belvez, les deux commissaires d'exposition, de titrer la leur « Où sont les femmes ?». Ça se termine lundi prochain, mais plutôt sans Patrick Juvet. Où sont les femmes? C'est effectivement la bonne question. Les chiffres sont souvent édifiants. Le ministère de la Culture indique qu'on est très loin de la parité. Moins d'un tiers des artistes exposés en France sont des femmes. Mais ce qui est plus spectaculaire encore, c'est qu'on a découvert qu'une très grosse proportion n'avait même pas été achetée, mais plutôt donnée. Au musée d'Orsay, par exemple, on compte 1501 œuvres de femmes, mais 902 sont le fruit de dons ou de legs. Le déséquilibre a eu la vie longue dans la politique d'acquisition des institutions culturelles, y compris dans l'art contemporain. Si longue qu'en 1993, lorsqu'elle se fait nommer au FRAC Lorraine, Béatrice Joss découvre que dans la collection toute récente qu'on vient de commencer à acheter depuis 10 ans à peine, il y a 95% d'œuvres d'artistes hommes. Féministe, elle raconte s'être tout de suite mobilisée pour réduire l'écart, à raison d'une œuvre de femme par an, soit à peine un achat sur 10 pourtant, et s'être entendue répondre partout la même chose.
Nous, on achète des bons artistes. On ne fait pas de distinguo, nous, on achète que des bons artistes. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire des bons artistes, puisque ça veut dire que des artistes hommes.
Auprès de ses tutelles, elle plaidait que les œuvres de femmes, au moins, c'est beaucoup moins cher. Béatrice Joss restera au FRAC Lorraine jusqu'en 2016, et à son départ, les femmes représentaient 40% de la collection, au prix d'une réputation de curatrice radicale.
C'est le marché qui a fait évoluer les institutions, mais pas l'inverse. C'est devenu rentable de présenter notamment des vieilles artistes femmes. Parce qu'elle permettait une autre lecture de l'histoire de l'art, notamment de l'art non occidental. Et comme le marché s'en est emparé, les institutions, elles, ont dû admettre que ah bah, ça vaut quelque chose.
Entre-temps, le Centre Pompidou avait fait une exposition pionnière, ça s'appelait Elle. C'était en 2009. 4 œuvres sur 10 montrées cette année-là avaient été achetées depuis moins de 5 ans. Et c'est dire si le rattrapage était tardif.
Un dossier de Chloé Leprince. Le ciel de ce vendredi entre nuages et éclaircies au nord. Plus de perturbations et d'averses, voire d'orages au sud de la Seine. Les températures comptaient au plus chaud 11 à 15 degrés en général.